Dimanche 23 octobre 1966, prédication du pasteur André Trocmé à l'église de Saint-Gervais.
Messieurs, nous vous invitons à participer maintenant au culte protestant, officiant le pasteur André Trocmé à l'orgue Liliane Burman. Rappelons que le culte est diffusé en transmission directe du temple de Saint-Gervais à Genève. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au cimetière pour savoir que même ce qui est gravé dans la pierre tente à s'effacer. Que dire alors de ce qui est gravé dans nos esprits et dans nos cœurs? Plus que cela, c'est la volonté même de nous souvenir, de garder en nos cœurs, comme dit la Bible, qui nous fait souvent défaut. Et c'est pourquoi nous voulons nous offrir à Dieu pour qu'il grave et regrave en nous sa sainte loi. Pour la sixième fois, et donc pour le sixième commandement aussi, la paroisse de Saint-Gervais à Genève et le service des émissions protestantes de Radio Suisse Romande vous proposent une redécouverte des 10 commandements. Sixième commandement, tu ne tueras pas. Le clocher même de ce temple de Saint-Gervais où nous sommes faisait partie des fortifications de la cité et encastré dans sa poutraison, il garde plus d'un boulet de pierre jadis tiré contre lui. Les relations des hommes entre eux ont toujours été difficiles. Et au niveau des relations familiales ou personnelles, si les conflits laissent des traces moins durables que les canons, ils tuent encore plus sûrement. Tu ne tueras pas. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, dit Saint Jean, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. À cette heure où nous voulons aimer Dieu, il nous faut commencer par apprendre à être ensemble. C'est pourquoi on ne célèbre jamais le culte tout seul. C'est pourquoi il faut être avec ceux qu'on voit pour être avec celui qu'on ne voit pas. C'est pourquoi chacun a une place ici, maintenant.
Thank you. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant, toujours, au siècle des siècles. Car il est notre Dieu, et nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez, aujourd'hui, écouter sa voix. Amen. Nous avons violé les commandements de notre Dieu. Levons-nous pour lui confesser notre péché. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, ta loi est sainte et ton commandement est saint, juste et bon. Mais nous sommes des pécheurs. Tu nous ordonnes le bien et nous faisons le mal. Nous faisons l'injustice qui conduit l'humanité à sa destruction et chacun de nous vers sa propre perdition. Or, tu condamnes la convoitise et le vol, l'impureté et l'adultère, la colère et le meurtre. Et voici notre conscience nous accuse et nos péchés témoignent contre nous. Seigneur, sois apaisé envers nous qui sommes coupables. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, accorde-nous maintenant le pardon de nos péchés. Que nous puissions croire en la puissance de ton pardon. Si bien qu'au sortir de ce lieu de culte, nous puissions retourner chez nous justifiés. Crée en nous, ô Dieu, par ton Saint-Esprit, des cœurs nouveaux et une vie nouvelle. Rends-nous capables de faire entièrement ta volonté. comme des enfants fidèles en Jésus-Christ. Amen. La mise en pratique du sixième commandement, tu ne tueras point, est une affaire de foi. De foi dans la puissance que Dieu a remise à Jésus-Christ. Nous lirons deux textes dans l'évangile de Matthieu qui sont l'expression de la puissance remise au Christ. La conclusion de l'Évangile. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans le même évangile, au chapitre 9, la rencontre de Jésus avec deux aveugles à Bethsaïda. Jésus était suivi par deux aveugles qui criaient : Aie pitié de nous, fils de David. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit : Croyez-vous que j'ai la puissance de faire cela ? Oui, Seigneur, répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant : Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. frères et sœurs, tous les hommes qui se sont penchés sur le sixième commandement, savants ou ignorants, sont d'accord sur un point. Dans ce commandement, Dieu condamne l'assassinat. Presque tous les croyants, à l'exception de quelques utopistes, pensent que les instincts meurtriers de l'homme sont tellement violents qu'il est nécessaire, hélas, d'empêcher l'assassin de nuire. Et l'apôtre Paul nous explique que c'est Dieu lui-même qui a confié aux magistrats, c'est-à-dire aux juges et aux policiers, le soin de maintenir l'ordre sur la terre. Cependant, un nombre toujours grandissant de chrétiens croit que Dieu veut pardonner tous les péchés, même l'assassinat. Et s'il y avait parmi mes auditeurs de ce matin quelqu'un qui soit coupable d'avoir infligé la mort à un autre homme, soit par négligence, soit par imprudence, par accident, soit même volontairement, il faut qu'il sache en cet instant que Dieu veut lui pardonner, pourvu qu'il demande avec foi ce pardon. Il faut donc abolir la peine de mort, puisque la peine de mort rend impossible la repentance au coupable. Cela est déjà fait en Suisse. Cela est fait en Italie. Cela vient de se faire en Angleterre. Et cela démontre que le sixième commandement est aussi valable pour les autorités. Tu ne tueras point. Mais l'aventure de la race humaine consiste en bien autre chose que de s'abstenir de tuer et de voler. La lutte pour la victoire de Dieu sur la terre doit recommencer avec chaque génération. Chacun de nous est appelé à s'engager dans cette lutte. Dieu me demande à moi de vivre et à la limite de mourir pour le triomphe d'une liberté, d'une vérité, d'une justice, d'une paix qui sont beaucoup plus importantes que ma propre survie sur la terre. Et c'est l'appel secret au sacrifice de notre vie pour cette réalité plus haute qui arrache périodiquement des citoyens très paisibles à la douceur des devoirs familiaux pour les jeter sur les champs de bataille de l'histoire. Qui leur reprochera leur sacrifice? Dans cette prédication, nous ne donnerons pas la parole aux lâches qui refusent de s'engager et envoient les autres se tuer à leur place. Car Dieu n'est pas un lâche. Dieu n'est pas un neutre. Dieu a pris parti pour son peuple, Israël. Et en son Fils, Dieu s'est pleinement et douloureusement engagé dans l'histoire. Croire en Dieu, frères et sœurs, c'est donc s'engager avec courage pour obéir à sa volonté. Rappelons-nous maintenant comment Moïse s'est engagé au service de Dieu. Dans trois circonstances, Moïse, qui proclama le sixième commandement, « Tu ne tueras point », fut amené par obéissance à Dieu à provoquer la mort des hommes. Pourquoi ? Parce que Moïse savait que Dieu, s'étant engagé dans l'histoire, avait choisi les Juifs comme peuple élu. Il fallait donc assurer l'indépendance et la survie du peuple juif. Et Moïse savait que Dieu l'avait désigné comme son bras pour accomplir cette mission. Pour faire sortir le peuple d'Égypte, Moïse déclencha la dixième plaie. Il étendit le bras. Et les premiers-nés égyptiens moururent. Cette action, que l'on appellerait aujourd'hui action terroriste, fit accorder l'indépendance nationale au peuple juif. Pour empêcher l'agresseur égyptien jeté à la poursuite du peuple fugitif, qui se composait de femmes, d'enfants, d'êtres faibles et désarmés, Moïse étendit le bras, et les eaux de la mer Rouge se refermèrent sur l'agresseur. Pour briser plusieurs révoltes politico-religieuses au sein du peuple, Moïse étendit encore le bras. Il ordonna le massacre de ses adversaires, en consolidant ainsi le régime théocratique qu'il avait reçu pour mission d'établir. Arrêtons-nous un instant pour faire ici trois remarques. Première remarque, ne trouvez-vous pas que Moïse est un personnage singulièrement moderne, puisqu'il nous apparaît comme le plus ancien héros d'une indépendance nationale. Deuxième remarque, Moïse n'a pas tué pour protéger sa propre vie, il a tué pour sauver la vie des autres. Des faibles, des désarmés, des femmes, des enfants que Dieu lui avait confiés. Troisième remarque. Moïse avait fait le don de sa vie. Il est très prêt à mourir à la place de son peuple. Or, ceux qui aujourd'hui, comme Moïse, sont prêts à sacrifier leur propre vie pour le triomphe de l'indépendance de leur peuple, ou le triomphe de la révolution dans laquelle il croit, ou pour la défense nationale, ou la défense des faibles à laquelle ils sont attachés, n'hésite pas plus que Moïse, s'il le croit inévitable, à sacrifier la vie des autres, ennemis ou même amis, pour sauver. Et ils sont tués. Mes frères et sœurs, cette situation paradoxale où se débattent tous les combattants de toutes les causes m'amène à vous poser trois questions auxquelles je vous laisserai le soin de répondre car ce matin, je n'ai pas le temps de le faire moi-même. Première question. Où est au XXe siècle le peuple élu par lequel Dieu s'engage dans l'histoire? Est-ce les USA? Est-ce la Chine? Est-ce l'URSS? Ou la France? Ou la Suisse? Ou l'État d'Israël? Est-ce le Nord-Vietnam? Les héroïques maquisards donnent leur vie pour l'indépendance de leur patrie attaquée par les impérialistes blancs. Est-ce le Sud-Vietnam, dont les courageux soldats, souvent chrétiens et catholiques, donnent leur vie pour le salut des libertés démocratiques. Question que je vous pose sans y répondre. Deuxième question. Le terrorisme, la guerre de jungle et les tortures qui l'accompagnent, les bombardements qui anéantissent des populations entières, le napalm et au bout de l'escalade, la bombe nucléaire, peuvent-ils, à votre avis, d'une manière quelconque, servir de bras à Dieu pour son engagement dans l'histoire? Troisième question. Dieu a choisi Israël pour manifester sa puissance et sa gloire sur la terre. Pourquoi donc, après avoir donné à Israël un pays et des lois et l'indépendance, pourquoi donc Dieu n'a-t-il pas donné à Israël l'empire du monde? Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'histoire d'Israël fut une longue succession d'épreuves, de défaites, d'exil, de souffrances? Dieu avait-il en vue une nouvelle forme d'engagement dont Moïse n'était que le précurseur? Et cette dernière question m'amène à Jésus-Christ. Il y a près de 2000 ans, naissait en Palestine le Juif Jésus-Christ. Le second Moïse annoncé par le Deutéronome et le Messie d'Israël. En Jésus-Christ, Dieu ne se dégageait pas de l'histoire, loin de là, mais il s'y enfonçait plus profondément. Ne me dites pas que Jésus s'est évadé de la réalité vers la stratosphère du sermon sur la montagne. Mais dites au contraire que Jésus, à la suite de Moïse et des prophètes, a voulu libérer son peuple, le peuple élu, non seulement de ses ennemis extérieurs, les Romains, mais encore de son ennemi intérieur, la puissance du mal. Désormais, la lutte va se poursuivre sur tous les plans de l'existence humaine, de l'individuel à l'universel, en passant par la famille, en passant par la cité, par la patrie, par la race, par le parti politique. Ne dites pas que Jésus a aboli les lois de Moïse. Dites au contraire qu'il les a accomplis. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ne résistez pas aux méchants par les mêmes armes. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et vous persécutent. Oui, Jésus-Christ est le nouveau Moïse, mais il est plus que Moïse, car Dieu a concentré son choix maintenant sur une seule personne, Jésus-Christ, le Juif. Désormais, le bras de Dieu dans l'histoire, c'est Jésus-Christ. Le Christ du sermon sur la montagne, des paraboles et des guérisons, le Christ de la croix et le Christ de la résurrection. Rappelons-nous maintenant comment Jésus, pénétré comme Moïse de la tâche qu'il avait à accomplir au sacrifice de sa vie, est intervenu dans l'histoire en libérateur. pour libérer Israël dont il est le Messie. Jésus écartera la couronne royale que voulaient lui imposer les nationalistes juifs, partisans de la guerre contre Rome. À ceux qui voulaient refuser le tribut humiliant, signe de l'asservissement des Juifs à l'occupant, Jésus oppose la célèbre sentence « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », ce qui, je pense, peut être interprété de la manière suivante « Laissez à l'ennemi qui occupe notre territoire la puissance militaire et le contrôle fiscal. Mais vous, allez annoncer le royaume de Dieu. » 40 ans plus tard, les Juifs nationalistes, qui n'avaient pas suivi les conseils du Christ, par une folle insurrection contre Rome, avait amené la deuxième destruction de Jérusalem. Tandis que l'essentiel du dépôt sacré que Dieu avait confié aux Juifs envahissait victorieusement l'Empire romain qui croyait à la puissance militaire et l'envahissait par le témoignage d'amour et de paix des disciples non violents de Jésus-Christ. Or aujourd'hui, en 1966, après Jésus-Christ, frères et sœurs, l'Empire romain, l'Empire de Charlemagne, l'Empire romain germanique, l'Empire de Napoléon, l'Empire allemand et l'Empire britannique se sont rejoints dans les cendres de l'histoire. Tandis que l'Empire de Jésus-Christ, avec pour seule arme une croix, ne cesse pas de gagner du terrain. Ne croyez donc pas, frères et sœurs, que Dieu vous enferme dans l'affreux dilemme que j'entends constamment répéter dans les visites que je fais. Ou bien, nous allons résister aux ennemis de Dieu par les armes, ou bien, il faudra capituler lâchement devant leurs exigences. Ce n'est pas ainsi que Dieu intervient dans l'histoire. En Jésus-Christ, il a frayé un troisième chemin. En Jésus-Christ, Dieu se donne aux siens et donne la victoire aux siens, non pas sur un champ de bataille, et par la destruction de ses ennemis, mais sur une croix qui devient le salut et de ses amis et de ses ennemis. Essayons de voir qui Dieu appelle les siens, qui Dieu appelle ses amis. Depuis la croix, le peuple élu ne connaît plus de frontières géographiques. Il ne connaît plus de frontières religieuses. Il ne connaît plus de frontières raciales ou même de frontières morales. Jésus-Christ a appelé les bons et les mauvais. En Dieu, par Dieu, a fait en Jésus-Christ le seul élu. A fait de Jésus-Christ le seul élu et le sauveur de ses amis et de ses ennemis. Il est venu, dit l'apôtre Paul, annoncer la paix à ceux qui étaient au loin et à ceux qui étaient auprès. Désormais, les amis du Christ et les ennemis du Christ, les croyants et les athées, les marxistes et les pratiquants sont appelés à une seule et même repentance, à un seul et même acte de confiance dans les moyens que Dieu a choisis pour sauver. sauver le monde et à un seul et même service de leurs frères en humanité. Désormais, le peuple de Dieu, et je sais que cela va peut-être nous frapper, nous faire de la peine, mais il en est ainsi depuis Jésus-Christ. Désormais, le peuple de Dieu n'est plus un peuple de sauveteurs, lié par le sanglant devoir de se sacrifier et de sacrifier les autres sur les champs de bataille de l'histoire. Non, nous sommes un peuple de sauvés, annonçant aux hommes la bonne nouvelle. Dieu a lui-même accompli le sacrifice qui rend inutile les autres holocaustes. Dieu aime la vie et non pas la mort. Dieu aime ma vie, mon âme et mon corps. La foi consiste en accepter son amour, à me laisser sauver. Et je dois apprendre à m'aimer moi-même afin de pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. Frères et sœurs, ne pensez pas que c'est parce que Dieu est faible qu'il a choisi la voie du sacrifice de son Fils pour intervenir dans l'histoire. Au contraire, c'est parce qu'il est fort. Dieu est sûr de gagner l'histoire par son Fils. À cause de Jésus-Christ, Dieu n'a plus besoin d'ordonner, comme à Moïse, que l'on extermine ses ennemis. Il délivre les siens de la nécessité de tuer. Tout pouvoir, déclare Jésus, m'a été confié dans le ciel et sur la terre. Vous pouvez donc faire de toutes les nations mes disciples. Vous pouvez les baptiser et leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dès la parution du peuple de Dieu sur la terre, un peuple qui n'était plus un peuple de sauveteurs et de sauvés, la face de l'histoire en fut changée. Désormais, la lutte va se dérouler de la façon suivante. Le peuple des sauvés, dispersé parmi les nations, se soumet par motif de conscience aux autorités, même aux autorités païennes, même aux autorités qui les persécutent, car elles sont mandatées par Dieu pour maintenir l'ordre public. Mais toujours par motif de conscience, le peuple des sauvés refuse d'obéir aux lois humaines qui sont encore sauvages, c'est-à-dire qui sont en contradiction avec la loi de Dieu. Ainsi, ce sont les premiers chrétiens qui inventent la désobéissance civile pour motif de conscience, ce n'est pas Gandhi. Depuis lors, à chaque tournant de l'histoire, le scénario est toujours le même. Une minorité de croyants comptant sur la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ annonce que tel secteur encore sauvage des lois humaines se soumis à Jésus-Christ. Ils n'attendent pas le consensus, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un affreux mot, ce consensus de l'opinion publique, ni même le consensus de l'Église. Non, il passe à l'obéissance comme pendant les combats humains, d'autres ont passé au maquis. Leur cause est d'abord incomprise. Ils sont persécutés, moqués. Et puis un jour, elle s'imposera à la foule et aux autorités. Et les lois suivront la conscience réveillée de l'Église. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et les premiers chrétiens descendirent en chantant dans l'arène et moururent en martyrs plutôt que d'adorer César. Tu ne te feras pas d'idole. Et les premiers huguenots montèrent sur le bûcher en chantant également pour ne pas embrasser les images. Et ce sont eux, beaucoup plus que les révolutions sanglantes, qui ont contraint graduellement les autorités à édicter les lois reconnaissant à chacun la liberté de conscience. Ces lois qui sont à la base de toutes les libertés démocratiques. Tu traiteras ton fils, ta fille, ton esclave, l'étranger qui est dans tes portes, comme toi-même, le jour du sabbat et les autres jours. Et ce fut la résistance des Quakers au XVIIIe siècle aux USA et l'œuvre incroyable des missionnaires en Afrique au XIXe siècle qui aboutit à l'abolition de l'esclavage. Tu honoreras pas ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère. Et ce fut la sainte croisade de Joséphine Butler aboutissant à la libération de la femme et de la traite des blanches. Tu ne tueras point. Et ce fut déjà le commencement d'exécution instaurée par Henri Dunant, obtenant des gouvernements qui humanisent le traitement des blessés, des prisonniers de guerre. Et quelle force est en train d'abolir la ségrégation raciale aux États-Unis? Est-ce la révolte armée des Noirs? Pas du tout. Ce sont les marches pacifiques organisées par Martin Luther King, le chrétien, entouré par un nombre toujours croissant de blancs, conquis par son amour et son exemple, et dont la conscience travaillée ne peut plus accepter la ségrégation. Et quelle force a amené la fin du colonialisme anglais? Est-ce le soulèvement armé de l'Inde? Pas du tout. C'est la puissance de la vérité mise en œuvre par Gandhi. Cette puissance qui réveilla. Les chrétiens catholiques et protestants de France, en face de la guerre d'Algérie et des tortures qu'elle déclenchait, cette crise de conscience rendit impossible moralement la poursuite de la guerre. Et c'est ainsi que la décolonisation eut lieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, en usant des mêmes méthodes, nous devons résister à cette affreuse et sauvage loi qui contraint les hommes à se faire la guerre. Car il est urgent de détruire la guerre avant qu'elle nous détruise. Et Jésus, le plus grand de tous les prophètes, a prophétisé que ceux qui frapperaient par l'épée périraient par l'épée. Soyons clairs, il ne s'agit pas de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. La violence est un péché humain qui résiste aux meilleures lois comme tous les péchés. Mais il s'agit d'améliorer les techniques internationales et sociales capables de dompter la violence. Il ne s'agit pas d'un rêve utopique et anarchique. Nous croyons que les autorités sont nécessaires et elles le resteront toujours sur la terre. Les autorités se débattent dans d'immenses difficultés, ce n'est pas aux chrétiens de leur jeter la pierre. Nous devons au contraire les soutenir en toute bonne chose, afin de mieux leur résister, afin de les contraindre moralement à améliorer leurs techniques et leurs lois. Il ne s'agit pas d'abandonner la protection des faibles, des femmes, des enfants, des opprimés, mais au contraire, à s'opposer fermement aux méthodes insensées qui, sous prétexte de sauver les hommes, préparent leur anéantissement. Et en concluant, je voudrais ajouter deux considérations. Tout d'abord, frères et sœurs, j'ai honte d'avoir brossé devant vos yeux la fresque triomphale des peuples sauvé par l'Église dans l'histoire. Hélas, si je regarde à l'Église, à mon Église, je constate qu'elle a été et qu'elle est encore bien souvent une puissance de réaction, manquant de foi en son Maître Jésus-Christ. et se revêtant d'armes que Dieu ne lui a pas remises pour anéantir Goliath. Persécution contre les hérétiques, conversion forcée des Saxons, croisade contre l'islam, croisade des Albigeois, guerre de religion, conversion forcée des Indiens d'Amérique, et recommençant avec chaque génération la confusion des valeurs, voilant notre peur morbide de perdre nos biens, de voir nos institutions bouleversées et nos privilèges de race et de classe contestés. Or, chaque fois que l'Église a pris les armes, qu'elle ait été du camp victorieux ou du camp vaincu, elle a fait reculer quelquefois pour des siècles la victoire du Christ dans tel ou tel secteur de la vie humaine. Et voici ma dernière considération. Mes frères et sœurs, pas plus que je n'accuse l'État, je ne puis accuser l'Église, mais je m'accuse moi-même. Car si l'Église officielle en est encore là, c'est aussi de ma faute, puisque j'en fais partie. C'est à cause de l'insuffisance de ma prédication, à cause de mon manque de clairvoyance, de courage et d'amour, à cause des infidélités de ma vie, de la faiblesse de mon témoignage, que mon Église ne s'est pas encore repentie et que vous n'êtes pas encore convertis à une foi entière dans la puissance que Dieu a remise à Jésus-Christ. Car la victoire sur l'assassinat, sur le meurtre et la guerre, c'est une affaire de foi. Tout pouvoir, dit Jésus, toute puissance m'a été remise sur la terre et dans le ciel. Alors vous pouvez donc m'obéir, et vous pouvez donc enseigner aux nations cette même obéissance, aux nations, et en faire mes disciples. Il n'y a pas d'autre baptême chrétien que celui-là. Tout baptême qui n'amène pas à l'obéissance et à la foi dans la puissance du Christ est une comédie. Rencontrant deux aveugles au bord de la route, Jésus leur demanda : croyez-vous que j'ai la puissance de faire cela, c'est-à-dire de vous guérir ? Frères et sœurs, c'est de guérison que l'humanité a besoin. C'est de guérison dont j'ai besoin. C'est de guérison dont tu as besoin. Le salut sur la terre et dans l'éternité. Le salut de ta famille, de tes enfants, de ta ville, de ta patrie que tu es en droit d'aimer. Le salut des faibles, des opprimés, des affamés, dont tu es responsable, dépend de la réponse que tu vas donner maintenant à Jésus-Christ qui t'interroge : crois-tu que j'ai la puissance de faire cela ? Amen. inclinons-nous dans la prière. Prière pour la paix. Notre Père, enseigne-nous à vivre en paix les uns avec les autres. Si l'on nous offense, si l'on empiète sur nos droits, si l'on nous calomnie, donne-nous ton esprit afin de pouvoir pardonner, nous désister et supporter tout à l'exemple de Jésus-Christ. Si l'on offense les faibles, si l'on empiète sur leurs droits, si on les calomnie ou les humilie, donne-nous ton esprit afin que nous ayons la force de prendre leur défense en renonçant à notre tranquillité. Si l'on offense ou si l'on s'attaque à notre famille, à notre parti, notre pays, donne-nous ton esprit afin que nous puissions tout à la fois pardonner à nos ennemis et leur résister selon des méthodes conformes à l'Évangile. Dès aujourd'hui, Seigneur, enseigne-nous ces méthodes avec le courage de les mettre en pratique dans notre vie journalière, malgré le danger, la souffrance et le mépris. Et que ta paix s'étende par tout le monde, par le moyen des enfants de paix, qui bénissent toujours et ne maudissent jamais, et qui font du bien et jamais du mal, tant à ceux qui les aiment qu'à ceux qui les haïssent, en vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 222 de notre recueil, les trois strophes.
Même les heures du dimanche n'ont que 60 minutes. Nous devons donc maintenant laisser le service se terminer sans nous en ce temple de Saint-Gervais. C'est le pasteur André Trocmé qui, de la part de Dieu, nous a remis en présence du sixième commandement. C'est Liliane Jurman qui est à l'orgue et ce sont les hommes et les femmes de Saint-Gervais qui, avec nous, ont célébré le culte tandis que la chorale de Saint-Jean avec Paul Labarthe chantait avant la